place publique.
Dimanche 21 mai, dans un peu plus de 15 jours, les citoyens suisses diront s'ils veulent de la stratégie énergétique 2050. Il s'agit d'approuver ou non un paquet de mesures visant à se passer progressivement de l'énergie nucléaire en privilégiant les énergies renouvelables et en économisant notre consommation d'énergie. Cette volonté de sortir du nucléaire est née d'une prise de conscience, éviter une nouvelle catastrophe comme à Fukushima au Japon. C'était en mars 2011, des dizaines de milliers de personnes déplacées et un coût estimé en 2016 à 188 milliards d'euros. En septembre dernier, donc, le Parlement fédéral a dit oui au projet de stratégie énergétique du Conseil fédéral. Depuis, l'UDC, appuyé par plusieurs milieux, dont des milieux économiques, a lancé un référendum, raison pour laquelle nous sommes appelés à voter.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous, place publique, vous l'avez compris, qui ce soir sera intégralement consacré à ce débat sur la stratégie énergétique. Quatre invités sont avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alain Fridet, conseiller national socialiste jurassien. Raymond Clotu est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Devec.
Vous êtes conseiller national UDC Neuchâtelois et en raison d'obligation, on le signale quand même, vous serez avec nous jusqu'à 18h50, soit 5 minutes avant le terme du débat. Également avec nous, Marianne Etter, secrétaire régionale du VVF section jurassienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et enfin, Michel Fior, secrétaire général de Paysages Libres Suisse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant de vous laisser la parole et de débattre, un bref rappel des enjeux principaux de cette stratégie énergétique 2050 avec David Sanchez.
Pour se passer du nucléaire et des énergies fossiles, la stratégie proposée repose sur trois grands piliers. Économiser de l'énergie en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, des véhicules, de nos appareils du quotidien, mais aussi promouvoir les énergies renouvelables, par exemple en encourageant les nouvelles installations hydroélectriques importantes ou en facilitant la construction d'éoliennes, mais en taxant davantage notre consommation d'électricité. Et bien sûr, interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires. Ces mesures courent jusqu'en 2035, avant que d'autres soient décidés pour les années suivantes. Du côté des opposants, cette réforme est hors de prix et conduira à des milliers de francs par an de frais supplémentaires pour un ménage de 4 personnes. C'est aussi porter un coup dangereux à notre économie et à sa compétitivité, surtout que l'État veut planifier notre consommation d'énergie en voulant la diviser par deux ces 20 prochaines années. De plus, nos paysages vont être sacrifiés, défigurés par la prolifération des installations censées nous fournir de l'énergie. Les opposants estiment par exemple qu'il faudra 1000 installations éoliennes industrielles supplémentaires pour concrétiser la stratégie énergétique 2050.
Pierre-Alain Fridet, on commence avec vous, on l'a entendu, pour les opposants de cette stratégie, c'est hors de prix. D'ailleurs, peut-être que vous tous, auditeurs, avez vu cette affiche qui prétend que cette stratégie va nous coûter 3200 francs supplémentaires par année si on a un ménage de 4 personnes, pour en plus une douche froide. Alors Pierre-Alain Fridet, est-ce que vraiment on a les moyens de s'autoriser ce tournant énergétique ?
Donc ce sont des chiffres qui sont avancés par les opposants. Les chiffres en fait, du comité d'initiative, du Conseil fédéral, du Parlement, c'est 0,8 centimes par kilowattheure consommé. Pour un ménage de 4 personnes, ça fait environ 5000 kilowattheures par an. Ça fait 40 francs par an. Point terminé. Ça, c'est véritablement les chiffres. Les opposants ont effectivement des chiffres qui se montraient à 3200 francs pour une famille. Ça fait une différence de plus de 8000%. Donc c'est clair, on ne parle pas de la même chose. Et eux, en fait, ont pris des chiffres qui semblent être ceux d'un ancien projet de Mme Widmer-Schlumpf à l'époque, un projet qui a été enterré par les chambres fédérales. Donc véritablement, ce sont des chiffres mensongers qui ne reposent sur rien et qui sont juste là pour faire peur. Il est clair qu'on parle maintenant d'une première étape jusqu'en 2035. Cette première étape, c'est 40 francs pour un ménage de 4 personnes. Et puis, le reste, après, ce sont que des suppositions. Il faudra voir où on en sera en 2035. Mais c'est comme dans chaque débat sur un sujet particulier. Effectivement, parlons de la RIE3, parlons de différentes choses. Il y a une première étape dans laquelle on discute, on fait un programme sur 15 ans. Et puis, pour l'instant, c'est 40 francs. Après, je ne peux pas vous dire, mais c'est clair que le but, ce sera de rediscuter à partir de 2030, 2035. Mais c'est un autre débat.
Raymond Cletu, vous l'avez entendu, il s'agit d'un mensonge. En tout cas, ce n'est pas très honnête intellectuellement, si on comprend bien Pierre-Alain Fridet, d'avancer ce chiffre, qui n'aurait rien à voir avec la votation dont on parle, qui finalement n'affecterait les ménages qu'avec 40 francs de plus par année. Qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, je dis catégoriquement non à mon collègue Fridet. Ce n'est pas un mensonge. Effectivement, la votation concerne la première phase, mais dès le moment qu'on s'engouffre dans la brèche, on devra automatiquement passer à la deuxième et éventuellement à la troisième phase. Je vais m'expliquer. Le coût, c'est plus de 200 milliards. On l'a pas inventé. Ce coût, il a été communiqué par l'Office fédéral d'énergie lors de l'adoption du message sur la stratégie énergétique en 2013. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important.
Il y a 100 vous parlez de 200 milliards, excusez-moi.
Non, mais laissez-moi terminer. Vous n'avez pas interrompu M. Fridet, j'aimerais aller jusqu'au bout. Nous avons entre 118 et 150 milliards qui concerneraient la production électrique renouvelable supplémentaire, ça veut dire celle solaire et l'énergie éolienne, donc l'extension des producteurs, entre guillemets, parce qu'on en reviendra lors du débat où c'est un certain monopole, donc ça concerne les toits solaires, conservation et renouvellement des installations existantes. Après, vous avez entre 80 et 100 milliards, ça concerne les nouvelles installations et le remplacement des chauffages au mazout, remplacement des flottes de véhicules, autant de mesures nécessaires pour baisser la consommation d'ici 2035 de 43%. Ça, c'est la réalité. Donc, cette loi sur l'énergie et avec elle sa stratégie vise, si vous voulez, une transformation complète du système énergétique de notre pays. Il ne s'agit pas seulement, on parle souvent d'électricité, mais aussi de tous les autres agents énergétiques, dont l'huile de chauffage, l'essence, le diesel, le gaz, le bois. À un moment donné, c'est tout à fait une évidence que les propriétaires immobiliers et les locataires, entre autres, devront passer à la caisse, mais l'ensemble de la population, parce que je pense aux transporteurs, qu'auront une augmentation massive de l'huile, par exemple, du diesel, hein, puisqu'on estime que cette augmentation pourrait aller à 26 centimes par litre, 67 centimes pour l'huile de chauffage, et c'est de cette manière qu'on arrive à 800 francs par personne dans un ménage. Donc, un ménage de 4 personnes, c'est 3200 francs par année.
On l'a bien compris.
Comme M. Fridet dit que c'est un mensonge, c'est faux, parce que le projet, ça c'est un élément qui est très important, le projet est toujours à l'examen au Parlement et au plénium du Conseil des États. Celui-ci n'en a pas encore débattu. La petite chambre ouvrira ce dossier donc après la votation du 21 mai prochain. Certes, le Conseil national, ça il a raison, a refusé d'entrer en matière sur ce projet, mais celui-ci n'a nullement été enterré par le Parlement, et ça je crois que c'est un point qui est primordial et je tenais à le souligner.
On vous a bien compris, donc c'est un tout. On parle bien de stratégie énergétique 2050, Pierre-Alain Fridet, oui. Avec des coûts quasi cachés. Hein. Ce premier paquet, c'est comme un cheval de Troie qui nous engage pour d'autres choses. Autant dire non tout de suite.
Alors écoutez, je crois que M. Cletu mélange beaucoup de choses. Il est clair que le coût maintenant pour monsieur et madame tout le monde, c'est 40 francs par année pour un ménage. Il est clair que ce qui sera proposé à travers cette stratégie, c'est d'améliorer quelque part les moyens de diminuer notre consommation. Nous avons en fait un choix qui est celui de sortir du nucléaire. Il s'impose. On a deux centrales qui vont fermer prochainement, Mühleberg et puis Bezenau 1. On doit maintenant avancer parce qu'il n'est pas question en Suisse de reconstruire une nouvelle centrale. Il n'y a pas de majorité politique, c'est clair. Il y a tout le problème des déchets, le problème des coûts prohibitifs. Donc d'office, nous devons entrer dans une phase où on doit penser autrement et le renouvelable est fondamental. D'un autre côté, nous sommes effectivement profondément dépendants des énergies fossiles qui coûtent cher au pays, puis ensuite sont responsables du réchauffement climatique. Donc ça, c'est aussi un domaine dans lequel on doit s'engager. Et cette stratégie permet en fait, sur une longue période de plusieurs décennies, de permettre au pays de s'adapter, de changer, de répondre aux grands défis, notamment le réchauffement climatique. Alors, de quoi parle M. Cletu ? Il est en train d'expliquer aux gens que s'ils doivent changer leur voiture, ben, il faudra le compter en fait dans cette stratégie. Ben, effectivement, tous les 5 à 10 ans, on change de voiture. Et puis, ce qui est proposé, c'est d'avoir simplement des voitures moins gourmandes en CO2. CO2 et puis de s'adapter. On aura des voitures beaucoup plus écologiques et peut-être dans 15 ou 20 ans, ce seront des voitures électriques. Il faudra les acheter.
Je parlais des transporteurs,
oui, mais d'accord, mais j'entends, je donne l'exemple. Ensuite, il y a tout le problème de l'isolation des bâtiments. Il y a des subventions très importantes augmentées qui seront offertes aux gens qui feront le pas pour, en fait, isoler leurs bâtiments. C'est clair que ça va leur coûter au départ, mais ça va leur générer des subventions, une baisse d'impôts et puis des économies.
Place publique. Gabriel Devec.
Un place publique spécial, votation du 21 mai sur la stratégie énergétique 2050. On va conclure sur cette partie, sur le coût de cette stratégie. Est-ce hors de prix ? Monsieur Raymond Clotu qui est avec nous, vous avez été interpellé. En fait, on vous accuse dans votre calcul, un peu alarmiste, de compter des frais que peut-être déjà tout un chacun paye déjà, notamment quand il s'agit de changer de voiture, de refaire sa façade, etc. Est-ce que vraiment il y a lieu de tout mettre ensemble et d'affoler la population ?
Non, mais c'est pas ce que nous faisons. Donc, il y aura quand même par la suite une augmentation de 67 centimes d'augmentation du litre de l'huile de chauffage, 26
centimes. C'est un autre débat.
Du litre d'essence. Mais ça, c'est la réalité. Et nous, ce que nous voulons,
on vote pas là-dessus.
Qu'il y ait une prise de conscience, c'est très très bien. Mais cette stratégie énergétique, pour nous, est tout simplement synonyme d'économie planifiée. Il s'agit, encore une fois, d'un diktat de plus de l'État, et pour nous, cela est totalement inacceptable.
On vous a bien compris.
Je ne pense pas que l'État n'est en mesure de contrôler notre avenir de production d'énergie sur 30 ans. On risque même, avec ce phénomène, M. Fridley l'a très bien dit, on va donner massivement des subventions. Ces subventions, il va falloir, l'argent ne va pas tomber du ciel.
40 fois par année par ménage.
Il va falloir, non, les subventions, M. Fridley, c'est, je pense, un peu plus que 40 francs par année. J'espère, parce que 40 francs, ce n'est pas grand-chose.
C'est ce que ça va coûter par ménage.
Piller des moyens nécessaires qu'on pourrait mettre ailleurs dans le développement de nouvelles technologies.
On vous a bien compris.
Et c'est pas à l'État de dicter. L'État donne que l'État fixe des objectifs. Ça, c'est très bien. Mais pas de quelle manière arriver à ces objectifs.
On va en reparler.
Mais Monsieur Clotu, nous devons faire des changements fondamentaux.
Mais que vous aimez bien, Monsieur Fridley.
Alors, on va continuer ce débat.
J'aimerais,
et on va aussi donner la parole à Madame Marie Etter du VVF. Marianne Etter. Dites-nous, l'argument du prix pour vous, est-ce qu'il est important ? Est-ce que le prix n'est pas finalement plus élevé qu'il n'y paraît ?
Non, mais au-delà de ces discussions légèrement stériles sur des chiffres officiels, encore une fois, entre le 3200 francs et le 40 francs du oui, j'aimerais aussi qu'on parle des conséquences financières du non. L'UDC n'a aucune alternative concrète, mais si on refuse la stratégie énergétique, il faudra bien faire quelque chose.
On laisse entendre parler Madame Etter.
Vous ne pouvez pas dire que si on refuse, le plan A, il faut bien un plan B. Qu'est-ce que vous avez comme plan B ?
Je vais vous l'expliquer.
Ah, mais alors, je m'intéresse beaucoup.
Mais je vous écoute maintenant, finissez. Moi, j'ai déjà passablement parlé, alors je vous écoute et je vous donnerai notre plan B.
Les différentes alternatives qui existent, elles vont toutes être très, très fortement coûteuse. Refaire une nouvelle centrale nucléaire, c'est très coûteux. Continuer avec des énergies fossiles, il ne faut pas non plus oublier que le pétrole bon marché, c'est gentiment fini. Le prix du pétrole, il va prendre l'ascenseur au fur et à mesure que les stocks vont diminuer. Les barrages, ils ont déjà de la peine à tenir la concurrence actuellement. Donc comment vous voulez faire pour focaliser que sur des barrages ? Vous voulez quoi ? La fission nucléaire, elle n'est même pas techniquement existante. C'est hyper coûteux.
On a bien compris.
Il n'y a pas d'autre alternative.
Il n'y a
pas continuer comme ça, le statu quo, il n'est pas possible non plus.
Michel Fior, qui est secrétaire général de Paysages Libres Suisse, vous l'entendez, finalement on paye parce que ça a un coût et les alternatives risquent même de coûter plus cher. Est-ce que ce n'est pas le moindre mal ?
Alors, je ne sais pas si les alternatives vont coûter plus cher. J'aimerais d'abord revenir sur ces chiffres quand même, parce que je crois que c'est quand même un élément absolument essentiel du débat. Le problème de cette loi, c'est qu'elle fixe des objectifs sans nous dire déjà comment on va les atteindre et encore moins comment on va les financer. Et c'est un très gros problème. Les 40 francs qui nous sont donnés comme coût pour un ménage de 4 personnes sont absolument trompeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que la facture des ménages, ça ne représente pas le 100% de la consommation d'électricité en Suisse, c'est même moins du tiers. Donc, le reste sera à charge, par exemple, des entreprises, des services, des transports, etc. Mais on va les payer aussi. On les payera en achetant un billet de train, on les payera en achetant notre pain, en faisant des courses à la Migros ou à la Coop, je ne sais pas, peu importe. Mais on les payera aussi. Donc le minimum du minimum de l'honnêteté, c'est 120 francs. Après, à ça va s'ajouter différents éléments parce que cette augmentation de 0,8 centimes de taxes prélevées sur le réseau, hein, pour financer en fait la construction d'installations d'énergie renouvelable, elle ne suffira jamais à désengorger la liste d'attente de la RPC, hein, donc tous les projets qui sont en liste d'attente. On a calculé qu'il faudrait l'augmenter à 5 francs si vraiment on voulait le couvrir. Donc, tôt ou tard, si on veut atteindre les objectifs d'énergie renouvelable de la stratégie 2050, il va falloir augmenter cette taxe sur le réseau. Et d'ailleurs, il y a un article, c'est l'article 55 de cette loi qui est très bureaucratique, hein, qui donne en plus au Conseil fédéral des pouvoirs sans arrêt sur des tas de points. L'article 55 dit que tous les 5 ans, le Conseil fédéral doit évaluer l'efficacité des mesures et si elles sont insuffisantes, je cite l'article, il doit proposer les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires. Donc 5 ans après l'entrée en vigueur, si elle entre en vigueur, bien sûr, cette loi, eh bien, on aura déjà les premières mesures supplémentaires qui devront être décidées.
Alors chacun sa vision de l'augmentation des prix selon la manière qu'on a de concevoir le problème. On va un peu avancer dans le débat, vous avez parlé...
J'aimerais juste, si vous permettez, M. Devecq, répondre à Mme Metter concernant le plan B. Alors on l'a bien compris qu'il y a peu de chances ou que le peuple ne veut plus pour l'instant la construction de centrales nucléaires. Néanmoins, la loi ferme la porte totalement à d'autres nouvelles technologies autour du nucléaire qui pourraient être prometteuses et puis qui pourraient être plus sûres avec beaucoup moins de déchets. Et ça, c'est aussi un problème. Parce que maintenant, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. L'énergie, par exemple, produite par les panneaux photovoltaïques, pour l'instant, on est aussi incapable de la stocker. C'est ça le gros problème que nous avons à l'heure actuelle. Alors avec cette loi, nous cloisonnons tout. Et
absolument
c'est tout simplement
pas
que nous ne voulons pas.
La recherche sur le nucléaire va continuer pour déjà s'occuper du problème des déchets, si, monsieur Clotu. Et puis l'autre élément, c'est qu'effectivement... Oui, mais c'est important. Et puis alors, un autre élément clair, c'est qu'effectivement, on espère, c'est pour ça qu'il y a une première étape jusqu'en 2035, bénéficier secondairement des progrès technologiques très importants. Mais encore une fois, ce dont on est en train de parler, c'est simplement une situation objective qui fait qu'on doit bouger. Et on a déjà tout plein de villes, tout plein de particuliers, tout plein de communes, de gens qui se mobilisent, qui mettent des panneaux photovoltaïques, qui
mais
se
ça,
lancent
c'est
dans
très le... bien,
mais oui,
monsieur
mais
Kidé.
C'est simplement prendre
donc,
maintenant
voyez que ça se fait.
Prendre maintenant une stratégie qui va renforcer toute cette dynamique pour réussir au maximum à atteindre en fait les buts qui sont pour l'instant des chiffres indicatifs, qui sont pas des chiffres obligatoire. On va dans une direction et cette direction, véritablement, elle va dans la bonne direction vers moins de pétrole, vers moins de mazout, vers plus de renouvelables.
On va parler maintenant de l'économie. On va parler de l'économie. Parce que
la politique de salami de madame la conseillère fédérale, le UTAM,
monsieur,
ça, je crois que c'est un point important.
Monsieur Clotu, on va pouvoir continuer à débattre de ces aspects, mais notamment en pensant à l'économie qui est divisée sur cette question de stratégie énergétique. Je vous propose d'écouter le point de vue de deux entrepreneurs de la région, un pour, un contre, tous les deux établis dans le Jura bernois. Alors on va commencer par Mircea Tudor, président directeur général de Tudor Scan Tech à Saint-Imier. C'est une entreprise qui met au point des appareils pour scanner des avions. Et pour Mircea Tudor, c'est un devoir et même une urgence d'investir dans les énergies propres. Le bâtiment d'ailleurs de son entreprise est en passe d'être le seul en Suisse à obtenir le plus gros standard, le plus important standard d'efficacité énergétique. Alors on écoute son message destiné au patron.
Il faut penser qu'est-ce que sera l'impact énergétique dans quelques années, dans 5 années, dans 10 années, dans 20 années. Et si on réussit à dépasser l'intérêt à court terme, on arrive à la conclusion qu'il faut faire tous les efforts pour que l'avenir sera mieux préparé d'aujourd'hui. Donc, je suis toujours une advocate de l'investissement dans les plus propres technologies possibles.
Vous-même, vous n'avez pas attendu que le Conseil fédéral propose cette stratégie pour investir. De même, beaucoup d'entrepreneurs l'ont fait. Dans quelle mesure on a besoin de cette loi contraignante pour aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas garder le statu quo où chacun fait comme il peut, comme il veut?
On arrive au devoir de l'autorité publique pour accélérer l'implantation des nouvelles technologies dans l'énergie verte parce que comme vous avez dit, l'entrepreneur, peut-être, il est aux contraintes de bouger. Donc, c'est l'État, c'est la Confédération qui doit soutenir toutes sortes de projets qui ont une empreinte énergétique positive. Donc, l'effort de chacun de nous doit être soutenu par l'effort des autorités publiques.
Raymond Cletu, vous l'avez entendu, c'est maintenant ou jamais, et l'État doit jouer son rôle de facilitateur. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais je suis tout à fait d'accord, mais cette loi-là, le patron Tudor se trompe, cette loi va faire tout l'inverse. C'est l'État, à un moment donné, qui va imposer aux entreprises de mettre en place des systèmes et on va opposer différentes technologies les unes contre les autres. Et ça, tout simplement, nous n'en voulons pas. Pour l'instant, je prends dans ma région, par exemple, j'ai une fromagerie qui vient d'être construite, pas très loin de chez moi, où ils ont couplé le mazout, donc avec une chaudière à condensation qui est très économe. Là, je vous rappelle aussi que les émissions de CO2 dues à l'huile de chauffage ont diminué plus de 50% depuis 1990 à nos jours, donc c'est pas rien et on peut encore faire des améliorations dans ce secteur, mais ils ont couplé ça aux panneaux solaires parce que vous avez une journée comme aujourd'hui où il fait un temps magnifique, ces chaudières pour faire le fromage, cailler le lait, ils peuvent très bien le faire avec les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, là il n'y a aucun souci, mais quand vous aviez comme ce début de semaine de la pluie et un temps couvert, ben là le mazout doit venir en appui. Ben ça se fait sans avoir que l'État intervienne massivement. Nous, ce que nous voulons, l'État doit donner une ligne, mais après, laisser dans un libre marché, laisser chacun prendre les mesures nécessaires pour arriver à l'objectif.
Marianne...
Tout simplement, mais sans avoir un diktat de l'État dessus, ce qu'on appelle, encore une fois, une économie planifiée. Ça, nous n'en voulons
mais
pas.
Mais il n'y a pas du tout de diktat de l'État. Au contraire, c'est un paquet qui est équilibré entre de l'incitatif, entre un cadre légal et puis aussi, bien sûr, toujours le développement d'initiatives volontaires telles celles que vous mentionnez. Mais malheureusement, on l'a vu, les initiatives volontaires, elles ne suffisent pas actuellement. Il faut vraiment accélérer le processus. On a des normes, selon l'accord de Paris, à atteindre. Il y a une urgence. Les changements climatiques, c'est une urgence pour la biodiversité, pour l'humanité. Et il faut accélérer le processus.
Tous les entrepreneurs ne sont pas du même avis que monsieur Tudor que nous avons entendu tout à l'heure. Je vous propose d'écouter maintenant le point de vue opposé. Il s'agit de Martial Voumard, industriel à Trablan et à la retraite, mais qui a créé plus de 300 places de travail dans les domaines de l'ébauche d'horlogerie et des machines-outils, avec sa société notamment Precitram, Machine SA, active dans le monde entier. Alors c'est intéressant de noter que Martial Voumard, lui aussi, a construit une usine efficiente énergétiquement qui ne consomme pratiquement plus d'huile de chauffage, même en hiver. Et pour la petite histoire, il alimente même l'EMS voisin en eau chaude durant l'été. Voici donc pourquoi il refuse la stratégie énergétique 2050, on l'écoute.
Si on est entrepreneur, c'est qu'on entreprend. Et on n'a pas besoin absolument de loi sur les économies d'énergie. On a déjà la loi sur le CO2. Et moi, je pense qu'on peut très bien faire qu'on est conscient de faire des économies dans nos entreprises et sans forcément une mainmise de l'État toujours. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on passe un petit peu d'une économie de marché dans le domaine de l'énergie à une économie planifiée et subventionnée. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. Et si je tire un parallèle avec l'industrie de la machine, vous savez que l'industrie de la machine est en difficulté à cause du fonds fort, n'est-ce pas ? On est d'accord de subventionner à raison de 140 millions, à bien clair, le lobby de l'énergie pour faire face à la concurrence étrangère. Pour moi, cette loi énergie 2050, c'est de l'émotionnel après Fukushima. C'est un mirage énergétique, c'est pas un virage. Ce n'est pas abouti et à terme, on passera tous à la caisse pour plus que 40 francs proposés par Mme Leuta.
Pierre-Alain Fridet, qu'est-ce que vous répondez à cet entrepreneur ?
Alors, je peux saluer en tout cas tout ce qu'il a tenté de réaliser. Il n'en reste pas moins que quand Mme Leuthard et le Conseil fédéral en 2011 a décidé de sortir du nucléaire, ils ont en fait simplement fait une analyse de la situation, ils ont pris leurs responsabilités. Donc, Mühleberg va fermer en 2019, Bezenau 1 peut-être même avant, ne va peut-être jamais reprendre, j'ai déjà dit. Et puis ensuite, les différentes centrales vont fermer les unes après les autres. Ce dont on nous parle maintenant, c'est qu'avec notre système, on va finir dans un blackout, qu'à un moment donné, il n'y aura plus assez d'énergie. Donc là, il y a une anticipation face à une fermeture inexorable de ces centrales qui vont devenir obsolètes. Et puis, on veut véritablement aller dans la bonne direction. Et en plus, donc, il faut se séparer des énergies fossiles à cause de l'environnement et du réchauffement climatique. Soit dit en passant, certains membres de l'UDC à Berne remettent en question la question du réchauffement climatique. Pour eux, la position de Trump est tout à fait logique. Je laisserai à tout le monde le soin d'analyser cette position. Ce qui est clair, c'est que maintenant, il faut des incitations.
Il faut des incitations,
il faut effectivement une dynamique. Et c'est véritablement pour une somme peu importante, parce que c'est vrai que les chiffres de Mme Leuthard sont corrects. C'est ce qui est prévu dans cette loi, c'est 40 francs pour un ménage. On va créer quelque part une dynamique, et cette dynamique, elle va être suivie dans ses résultats. Et ces résultats, effectivement, ils vont être un peu analysés. Et on va, dans 15, 20 ans, passer à une étape supplémentaire, où là, on va bénéficier de tous les avantages supplémentaires qui auront été trouvés en termes technologiques. Je parle de la voiture électrique, je parle des capacités de stockage qui existent déjà pour l'électricité. Mais c'est pas un pari sur l'avenir. De toute façon, on ferme les centrales. Donc on doit maintenant trouver des solutions, on doit se retrousser les manches et aller de l'avant. C'est tout. La seule grande décision qui est prise maintenant, c'est qu'effectivement, on ne va plus construire de nouvelles centrales. Et ça, c'est un élément qui est très important.
Et il faudra les remplacer, ces centrales, par de l'énergie renouvelable. Raymond Clotu, avant que vous nous quittiez.
Oui, je dois vous laisser. Je crois que les améliorations énergétiques, pour ma part, empruntent autant au bon sens qu'aux évolutions techniques. Et puis, avec cette loi, ben, on empêche cela. Et moi, ça me pose gros problème. Quand on parle aussi, et puis là, ce sera pour M. Fior, il pourra vous expliquer, mais cette nouvelle loi, mon collègue Fridé, empêche toute opposition à la construction
de
parcs éoliens.
Alors, vous nous faites un lien.
La Confédération peut exiger des cantons qu'ils définissent des régions.
Ben, là, on va
y venir maintenant.
Il saura très bien répondre, mais ça, c'est un élément qui est très important en matière paysager.
On a bien compris cet
indice. Et je vous souhaite une bonne fin de débat et un excellent week-end.
Merci Raymond Clotu d'avoir été avec nous. Vous avez bien fait de le dire. C'est le gros point, un autre gros point lié à cette stratégie énergétique 2050, c'est le recours aux énergies renouvelables. Un recours qui, on le voit bien, dans la réalité, ce n'est pas simple. Que ce soit les éoliennes, la géothermie, un peu moins l'hydraulique, ça déchaîne les passions. Et d'ailleurs, Michel Fior, c'est pour ça que vous vous opposez principalement à cette stratégie. C'est que, pour vous, c'est la porte ouverte à une implantation quasi sauvage d'éoliennes partout sur le pays. Vous parlez de 1000 éoliennes supplémentaires alors que seules 35 d'entre elles tournent actuellement en Suisse.
Alors l'éolien est un des aspects problématiques de cette loi. Mais il faut remonter plus en amont en fait. Bien sûr, cette loi a ce grand avantage. Elle fixe par exemple des normes plus strictes en matière de consommation d'appareils. Tout ça, c'est très bien. Mais il n'en demeure pas moins que la consommation électrique va continuer et ni le photovoltaïque, ni l'éolien ne vont pouvoir y faire face. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'on ne contrôle pas la production électrique par l'éolien et par le photovoltaïque. Par une nuit sans vent, excusez-moi, mais ça ne produit rien du tout. Si au même moment, on n'a plus d'eau dans nos barrages parce qu'on aura tout consommé précédemment, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va être dépendant. Désolé de devoir le dire, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, du charbon ou du gaz allemand ou du nucléaire français. Donc ça, c'est le gros problème. Cette loi, en fait, elle n'est pas aussi écologique que certains veulent bien nous le dire. Et le deuxième problème qui explique pourquoi cette loi, dans le fond, n'est pas du tout une loi favorable à l'environnement, c'est effectivement cet objectif de 4,3 TWh qui figure dans tous les documents de base, dans le message d'accompagnement du Conseil fédéral, etc., ce chiffre de 4,3 TWh de production annuelle d'électricité d'origine éolienne, il n'y a pas de miracle, il faut 1000 machines pour atteindre cet objectif. Et sur ces 1000 machines, il y en a en tout cas 200 qui sont prévues dans l'arc jurassien, les cantons du Jura bernois et de Neuchâtel.
Et dans le Jura, vous êtes aux premières loges, Marie-Anne Ether, pour le VVF jurassien, pour constater que l'implantation d'éoliennes ne passe pas facilement, au contraire, déchaîne les passions. C'est le cas notamment toujours à Saint-Bray. Elle tourne, mais la discorde est grande. Est-ce que vous constatez, vous aussi, qu'on mise peut-être un peu trop sur des énergies qui, au final, ne sont pas si simples à implanter ?
Bon, de manière générale, l'éolien, ça reste quand même intéressant dans une problématique générale d'avoir un mix énergétique. Chaque énergie, elle a des avantages et des inconvénients. Si on fait un bon panachage, on arrive à avoir un paquet cohérent, de compenser les faiblesses des unes avec les forces des autres. Pour revenir aux chiffres que vous évoquez, là, Je ne suis pas d'accord. L'article 2, alinéa, il mentionne des valeurs indicatives totales des énergies renouvelables. Ensuite, la répartition fine de ces différentes formes d'énergie, elle se fera selon le potentiel, selon les opportunités. La loi sur l'énergie, c'est un cadre fédéral. La mise en œuvre, c'est une planification cantonale. Et là, je ne suis pas d'accord d'anticiper le débat, puisqu'en fait, on n'est pas à ce niveau-là actuellement.
Vous ne craignez pas que le paysage soit défiguré par des centaines d'éoliennes en Suisse ?
J'y arrive. Pour nous, on n'a pas de position bloc par rapport à l'éolien. On n'a pas de rejet, on n'a pas non plus de chèque en blanc pour toutes les éoliennes. Notre principe, c'est d'examiner une par une tous les projets. Et puis, on pense par contre qu'il y a de la place pour de bons projets en Suisse. Des projets qui sont respectueux de la population, de la biodiversité et de l'intégration paysagère. C'est possible.
J'aimerais quand même dire que le VVF a décidé de 400 machines, 400 éoliennes, a noué un espèce de pacte avec Suceol pour la construction de 400 machines en Suisse, dont certaines qui se trouvent, c'est le cas dans la vallée de Joux, dans des réserves naturelles qui sont parmi les endroits les plus protégés de Suisse, c'est-à-dire c'est un endroit qui figure dans ce qu'on appelle l'inventaire fédéral des paysages.
C'est alors vraiment... ça, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est vraiment mensonger, c'est pas possible. C'est pas possible, oui. J'allais y venir. Le VVF, notre priorité, c'est pas, contrairement à vous, le paysage, mais c'est la biodiversité. Et pour nous, cette loi sur l'énergie, elle a une immense force, c'est qu'elle interdit la construction d'installations d'énergie dans les biotopes d'importance nationale.
Alors ne venez pas. Depuis l'initiative Rotentum, il n'y a aucune avancée substantielle en la matière. Là où il y a un énorme recul, c'est sur l'impact sur le paysage. Ces 1000 machines qui, en plus, recevront avec cette loi ce caractère d'intérêt national. C'est-à-dire qu'elles seront quasiment imposées en raison et avec ce qualificatif d'intérêt national qu'on leur donne. Cet article 12 sur l'intérêt national, il a quoi comme objectif ? Le Parlement a voulu par là accélérer les procédures, imposer le plus de machines possible, le plus vite possible. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors maintenant, il faut assumer, ma foi, que la conséquence, c'est 1000 éoliennes en Suisse, dont en tout cas 200 dans l'arc jurassien.
Mais on n'en sait rien. Je crois qu'effectivement, du point de vue environnemental, cette loi est une avancée importante. On va réduire les effets néfastes des gaz à effet de serre, on va sortir du nucléaire. Il y a effectivement une protection des cours d'eau qui est en gros améliorée par le fait qu'on ne va plus subventionner les petites installations hydrauliques. Il y a la protection des biotopes qui est claire. C'est vrai qu'il y a une petite perte au niveau de la protection des paysages par le fait qu'effectivement, il y aura possibilité dans certaines zones qui sont à l'inventaire fédéral des paysages de mettre des éoliennes. Il y aura là des pesées d'intérêts qui devront être faits et je suis persuadé que tous les cas ne vont pas passer aussi facilement. Il faut rappeler quand même que le droit des associations de protection de l'environnement sont maintenus et il y aura des discussions. Donc je pense qu'il n'y aura pas 1000 éoliennes, il n'y a pas la place.
Vous dites qu'on n'en sait rien.
Non mais on n'en sait rien.
On en sait beaucoup.
Ce qui se passe maintenant.
Les projets acceptés dans la RPC, il y en a 509 à l'heure actuelle. C'est des projets acceptés qui sont financés, ils ne demandent qu'à commencer. Il y en a 361 qui sont sur la liste
d'attente. Vous parlez d'éoliennes ?
Oui, uniquement d'éoliennes.
Mais il y a une procédure habituelle avec une publication, un droit d'opposition, un droit de recours. Et puis là, ça ne changera rien. Et au besoin, nous interviendrons.
Absolument pas. Avec le caractère d'intérêt national, justement. Le caractère d'intérêt national a pour but d'imposer ces machines.
Mais expliquons ce que c'est, cet intérêt national. Parce que là, je ne crois pas que ce soit clair pour tout le monde. C'est effectivement une petite concession que les associations de protection de la nature ont faite. Parce qu'on a estimé que sur les gains globaux qu'on faisait, c'était quelque chose d'acceptable. Le petit compromis qu'on a fait, c'est effectivement d'abaisser le degré de protection des IFP, c'est-à-dire des inventaires fédéraux du paysage. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que très souvent, il y a une superposition entre la protection des biotopes et la protection des paysages.
L'intérêt national, merci d'avoir donné votre vision de cet intérêt national. Maintenant, peut-être pour conclure, mais vraiment rapidement, cette stratégie énergétique mise, on l'a bien compris, sur aussi une diminution de la consommation, avec cet objectif ambitieux de réduire quasi de moitié notre consommation, ça veut dire revenir à la consommation qui était celle des années 60. Est-ce que là, l'État ne va pas trop loin ? Ce sera le dernier thème, le dernier tour de table, Pierre-Alain Fridet.
Effectivement, quand on parle comme ça, on donne l'impression, et c'est effectivement ce que font les opposants, qu'on va revenir un petit peu à l'âge de pierre, aux douches froides et compagnie. Ce dont on parle maintenant, c'est d'une efficacité énergétique nettement augmenté. Si on isole nos bâtiments, si on se déplace avec des véhicules qui sont beaucoup moins gourmands et idéalement électriques et plus à mazout, si on a effectivement des lampes LED et pas des lampes habituelles, tout ça, ça correspond véritablement à des économies importantes. Et on le fait, on a une augmentation de la population et on stabilise, voire on baisse un petit peu notre consommation d'énergie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, il faut passer à une étape suivante. Il faut diminuer effectivement ce qu'on dépense en termes d'énergie pour se chauffer, pour se loger, pour se déplacer. C'est un grand défi et cette stratégie énergétique donne les moyens d'avancer, d'aller de l'avant dans la bonne direction.
Un dernier mot, mais très court pour vous, Michel Fior. Est-ce que pour vous, c'est un objectif aussi qui est réalisable ?
C'est un objectif réalisable et je dirais même que c'est un objectif essentiel. La question est de savoir comment est-ce qu'on va y arriver. C'est-à-dire par quelle mesure d'incitation, par quelle mesure de subventionnement pour remplacer des énergies non renouvelables par des énergies renouvelables. Et la loi ne nous dit absolument rien là-dessus. Raison pour laquelle il faut la rejeter, un petit peu comme on l'a fait pour la RIE3, pour donner l'occasion à nos chambres de mettre sur pied une stratégie énergétique 2.0 qui nous permette véritablement d'aller de l'avant.
Merci à tous, en tous les cas, d'avoir participé à ce débat qui file à vitesse grand V. Bien sûr, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Marie-Anne Etter, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi Pierre-Alain Fridet d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, Michel Fior aussi, et Raymond Cletuc qui était avec nous.
Place publique.